Remue-Méninge sur RCF Isère. Une réalisation d'Élise Chardonnay.
Je vous retrouve comme chaque mois sur RCF Isère pour cette émission consacrée aux questions de psychologie et de sociologie. Le thème du jour, c'est la psychogénéalogie. Nous allons, avec mes invités, tenter de comprendre ce que recoupe cette thérapie, à qui elle s'adresse, quels sont ses outils. Nous envisagerons aussi ses limites, ses approximations éventuelles, les raisons de ne pas en faire le remède à tous nos maux. Nicolas Gaillard et Géraldine Fabre, bonjour.
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 Bienvenue à vous. Alors, vous êtes membre du CORTEX, le collectif de recherche transdisciplinaire, esprit critique et science. À ce titre, vous avez été invité par la bibliothèque Kateb Yassine à réaliser une conférence qui sera donc consacrée à la psychologie en décembre prochain. Vous avez commencé à vous intéresser à la psychologie, à la psychogénéalogie, de quelle façon, Géraldine Fabre?
Alors, moi, je me suis intéressée à la psychogénéalogie de manière complètement personnelle, en fait. Un de mes amis m'a fait découvrir cette thérapie. M'en a parlé pour la première fois parce qu'il avait un fort désir d'enfant avec sa femme. Il n'arrivait pas à avoir un enfant. Et il m'a dit, grâce à cette thérapie, nous avons réussi à concevoir un enfant. Donc, ça m'a semblé très bizarre. Et donc j'ai commencé à regarder de plus près ce qu'était cette thérapie. Et puis donc je voulais me faire mon propre avis.
Et de votre côté, Nicolas Gaillard?
Alors c'est par rapport à la mission que s'est donnée le CORTEX, le collectif de recherche transdisciplinaire esprit critique et sciences, sur l'esprit critique et le développement en fait de l'enseignement de l'esprit critique. Donc premièrement en proposant du contenu et un fond de documentaire sur tous les aspects justement de ces thérapies qui sont jugées un peu étranges ou peu scientifiques en tout cas, et l'enseignement de ces outils, de tout le développement en fait qu'on pouvait faire en termes d'outillage d'esprit critique pour amener les gens à pouvoir se prononcer en connaissance de cause.
Alors, vous l'avez dit, peut-être pas scientifique, étrange. On va en tout cas commencer par s'intéresser justement à la définition et aux origines de ce concept de psychogénéalogie. La psychogénéalogie, elle est appelée aussi analyse transgénérationnelle. Elle est née dans les années 70 et elle s'est développée à partir des années 80 sous l'impulsion de Anne Hanselin Schutzenberger. Elle est connue pour son célèbre livre « Aïe mes aïeux ». Alors, de quel postulat est-elle partie?
Alors, des postulats, il y en a beaucoup en psychogénéalogie. En fait, la psychogénéalogie postule déjà l'existence d'un inconscient familial qui relierait tous les membres d'une famille et qui permettrait la transmission entre générations de secrets, de règles pas explicites, de loyauté inconsciente, en fait. Ce concept de loyauté familiale invisible, en fait, il est très important. On le retrouve beaucoup en psychogénéalogie, parce que pour Anne Hanselin, donc Schutzenberger, c'est ce qui explique certains comportements ou même certaines de maladies qu'on développerait. Voilà. On développerait ces maladies, on aurait ce genre de comportement qui nous pousserait à même avoir des accidents ou avoir des conduites à risque, par loyauté familiale envers un ancêtre à qui il serait arrivé quelque chose de similaire. Voilà.
Comment on peut expliquer une telle loyauté, puisque c'est complètement inconscient?
Le postulat de la psychogénéalogie, c'est de dire que les événements, les traumatismes, les secrets, les conflits en fait, qui auraient été vécus par les ascendants de quelqu'un, d'un sujet, conditionneraient ses troubles psychologiques, ses difficultés, voire ses maladies, dans l'instant présent. Du coup, C'est vraiment l'idée d'une transmission transgénérationnelle à travers les générations, les différentes générations, de troubles psychiques, de grosses difficultés, etc., etc. Ça, c'est le postulat de base en fait, de la psychogénéalogie. C'est le concept de base. Après, l'explication qui est faite, là, ce qui est avancé par la psychogénéalogie, c'est le concept un peu de syndrome d'anniversaire. C'est-à-dire qu'on va essayer de rechercher des occurrences, des choses qui se répètent en fait, à différents degrés d'un arbre généalogique chez les ascendants, pour essayer de trouver des liens en fait, entre la difficulté qui est vécue par une personne aujourd'hui et ce qui aurait pu être vécu ou déclenché par un ancêtre qui aurait vécu la même chose ou qui aurait eu une difficulté particulière.
Donc l'idée principale, c'est que nous avons en fait en plus d'un héritage génétique, un héritage psychologique. On est issu d'une histoire familiale, on a une place particulière dans cette famille. Cette place et cette histoire, elles conditionnent finalement nos fonctionnements et elles sont responsables, dans un sens, de nos traumatismes, de nos troubles psychologiques, de nos maladies, de nos comportements étranges. Vous parlez du syndrome d'anniversaire. Est-ce que ça veut dire que d'une génération à l'autre, on répète exactement les mêmes comportements? Ou est-ce qu'on a aussi des liens qui sont un peu moins directs? Par exemple, moi j'ai entendu parler d'exemples qui seraient un grand-père qui a été gazé et un enfant ou son petit-fils qui aurait des troubles de la respiration, des troubles pulmonaires. Donc ils ne sont pas exactement dans la répétition.
Non, ça c'est plutôt une loyauté familiale invisible en fait. Enfin... C'est ce que Anne Ancelin prétend, dire que pour expliquer le trouble pulmonaire de l'enfant, elle va remonter l'arbre généalogique et en constatant que le grand-père a été gazé, elle va faire un lien de cause à effet entre les deux. Après, ce lien, il est arbitraire, enfin, il est subjectif, il n'est pas... voilà, elle le pose comme ça, il est même irréfutable, en fait, et donc critiquable, voilà.
Alors, l'un des fondements de cette théorie, c'est donc le syndrome d'anniversaire. La psychogénéalogie, en fait, elle cherche à montrer qu'il existe une forme donc, de reproduction inconsciente entre les générations, c'est ce que vous avez dit. Et ce qui est mis en avant, c'est qu'on est donc le produit des générations passées. On est le produit des non-dits, le produit des secrets de famille, des traumatismes, des souffrances vécues. Et ce qui est étonnant, c'est que justement, on puisse souffrir de secrets. C'est-à-dire que vraiment, on est dans quelque chose qui n'existe pas, ou qui n'est pas dit, ou qui est enterré. C'est ce qui va ressortir aux générations futures.
En fait, c'est un postulat qui s'appuie sur des choses qui sont un peu issues de la psychologie populaire. Populaire dans le sens où c'est la façon dont est vulgarisée la psychologie et la façon dont le grand public a accès justement aux recherches en psychologie. Et notamment sur des grands débats qui sont encore à l'ordre du jour sur la psychanalyse, par exemple. C'est-à-dire que la psychogénéalogie s'appuie essentiellement sur les concepts d'inconscient collectif de Jung, par exemple. Et à travers ces concepts qui font vraiment débat aujourd'hui, c'est-à-dire que scientifiquement, ces concepts souffrent essentiellement d'un problème de réfutabilité, c'est-à-dire que c'est très très compliqué de mettre en place un protocole rigoureux de scientifique qui pourrait montrer la véracité un peu de ces concepts-là. Donc il s'appuie sur quelque chose que tout le monde connaît, en fait, c'est ce fameux inconscient, les choses qui se jouent inconsciemment, avec tout ce qui est des concepts de refoulement, de secrets, de choses qui sont transmises, pas de façon objective, mais qui seraient vraiment sur quelque chose d'intersubjectif, où navigueraient, surnageraient en tout cas, dans les familles, entre les individus, des choses qui seraient uniquement... psychique.
Donc ce qui est intéressant, ce qui ressort là, c'est que cette psychogénéalogie, elle ne sort pas de nulle part, elle se repose aussi sur des concepts de psychanalyse et donc avec des références qui ont été admises et qui peuvent être critiquables, mais qui sont admises par beaucoup de personnes et qui postulent que, par exemple, la place des géniteurs dans le déclenchement des troubles et la répétition de ces troubles psychologiques est avérée. En tout cas, souvent, quand on est en psychanalyse, on va rechercher dans l'histoire de la famille et dans le rôle du père et de la mère la raison de son trouble actuel. Donc là, on a l'impression qu'on saute des générations, on va encore plus loin. Si on n'arrive pas à résoudre le problème en expliquant le rôle du père et de la mère, on va aller chercher dans les générations précédentes.
Alors avéré non, c'est-à-dire qu'aujourd'hui ce qui est avancé par les concepts psychanalytiques, alors il y a beaucoup de courants dans la psychanalyse, par contre au niveau de la rigueur scientifique de l'établissement de ces concepts-là, c'est pas du tout avéré, c'est quelque chose qui est plutôt de l'ordre du scénario pour l'instant, c'est-à-dire que c'est une proposition de grille de lecture du fonctionnement humain. Par rapport à ça, il y a d'autres grandes disciplines comme la psychologie sociale, la psychologie cognitive par exemple, qui elles par contre viennent étayer leurs propositions de concepts ou de théories sur des démarches scientifiques réelles et rigoureuses. Donc aujourd'hui, non, la psychanalyse n'est pas quelque chose d'avéré. Par contre, elle est vraiment partagée par énormément de gens. Dans une sorte un peu de culture populaire de transmission justement inconsciente d'énormément de choses. C'est ça qui nous intéresse aussi dans l'angle qu'on peut avoir aussi sur la psychogénéalogie, c'est de mesurer justement la rigueur qu'il y a autour de ces concepts-là et de voir, au vu des enjeux importants et graves de la proposition psychothérapeutique qui est faite par la psychogénéalogie, d'en mesurer, d'en éprouver en fait ces fondements réels et de pouvoir en dire, voilà, est-ce que c'est plus vrai que faux, en fait. Et ça commencera notamment par ces fameux liens, c'est-à-dire que aujourd'hui, on est beaucoup dans une recherche de liens entre plusieurs choses. Quand on a une difficulté psychologique, effectivement, quand on va dans une psychanalyse, on essaye de faire des liens. Et ce qui est intéressant, et ce qui sous-tend la démarche d'esprit critique, c'est d'éprouver justement ces liens-là, quoi. Est-ce que réellement, il y a des liens qui peuvent être pertinents, des liens qui peuvent être avérés, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un lien, ou est-ce qu'on peut faire des erreurs de liens, des biais de raisonnement, en fait, qui expliqueraient pourquoi on arrive à faire des liens, alors à des endroits où, potentiellement, il ne devrait pas y en avoir, quoi.
Écoute de Remue Méninges sur RCF Isère et nous nous intéressons aujourd'hui à la psychogénéalogie, ses fondements, ses applications. Nous cherchons également à explorer ses limites avec mes invités Nicolas Gaillard et Géraldine Fabre. On a compris en quoi consiste l'analyse transgénérationnelle, autre nom pour la psychogénéalogie. On va maintenant s'intéresser à ses objectifs, dans un sens, et aux outils qui ont été développés pour agir concrètement avec les patients. Les objectifs de la psychogénéalogie, en fait, quels sont-ils ? Est-ce que c'est de résoudre vraiment les problèmes ? Est-ce que c'est de se comprendre soi-même ? Géraldine Fabre.
La psychogénéalogie a des prétentions thérapeutiques assez fortes, en fait, parce qu'elle elle se définit comme une méthode de psychanalyse qui consiste en fait à rechercher dans le vécu de nos ancêtres les sources de nos éventuels troubles psychologiques et même nos maladies, c'est-à-dire les cancers, les choses comme ça. Une fois que les raisons, entre guillemets, de ces troubles ou de ces maladies sont mises en évidence, le psychogénéalogiste prétend que du coup, la maladie va être guérie. Voilà, on est sur la voie de la guérison. Une fois qu'on a compris la cause, on a mis en lumière l'origine généalogique, on est sur la voie de la guérison. L'outil principal utilisé par le psychogénéalogiste, c'est le génosociogramme. En fait, c'est un arbre généalogique constitué principalement de mémoires qui est réalisé donc avec le thérapeute en séance, qui comporte des dates que le patient va lui-même définir, les dates de naissance, dates de mort ou d'autres dates qui peuvent être importantes dans la vie des ancêtres qu'il aura sélectionné. Donc c'est un arbre de filiation directe, c'est-à-dire parents, grands-parents, mais aussi qui peut être complété avec les personnes qui semblent importantes aux patients, c'est-à-dire oncles, tantes, cousins, etc. Dans cet arbre généalogique, dans ce génosociogramme, le psychogénéaliste va essayer de repérer ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire des répétitions de dates, de comportements, d'apparition de maladies, de choses comme ça. Et il va essayer de leur donner un sens. Voilà. Et c'est là qu'il y a deux points du coup, qui nous semblent assez critiquables. C'est la manière dont on interprète ces répétitions et la manière dont on les recherche, en fait, ces répétitions. Parce qu'un des fondements, un des postulats même de la psychogénéalogie, c'est que ces répétitions, elles sont très improbables. Et en fait, elles sont beaucoup, beaucoup plus probables que ce qu'on croit.
Alors, le premier travail pour le patient, peut-être, ça va être un travail de détective, finalement, d'aller comprendre non seulement d'où il vient, connaître, vous l'avez dit, les dates donc, de vie, de mort de ses parents, grands-parents, ça peut aller beaucoup plus loin, arrière-grands-parents, etc. De comprendre aussi, de mettre en lumière certains événements. Là, on est déjà dans une certaine approximation, parce que ça va être forcément des... Ça va dépendre de ce qu'il connaît de sa famille.
Oui, tout à fait. Et en science, on parlerait même là de tri des données. C'est-à-dire qu'on va retenir et on va mettre dans l'arbre, dans le génosociogramme, que les éléments qui vont nous sembler avoir du sens. Et on va écarter les autres. Mais oui, effectivement, c'est un gros travail d'enquête et même de généalogie. Et c'est là aussi où, du coup, la psychogénéalogie... se part un peu de scientificité, c'est-à-dire que ces dates qu'on a trouvées, qui sont réelles, hein, date de mort, date de décès, date de mariage de nos ancêtres, quand on voit apparaître des répétitions, c'est objectif, ce sont des dates de... Donc du coup, faire des calculs avec ces dates, ça nous semble être très scientifique, et en fait, c'est plus compliqué que ça.
Quelle différence y aurait-il entre le génosociogramme et l'arbre généalogique ?
Alors, le génosociogramme, pour bien comprendre, il faut se repartir aussi sur l'élaboration de la psychogénéologie et savoir que Anne Ancelin Schutzenberger a emprunté à une autre discipline qui est la systémique cet outil-là, qui est l'outil du génosociogramme ou du sociogramme. L'idée, c'est de partir sur un arbre généalogique qui serait un peu plus complexe, en fait, et qui viendrait... marqué des faits importants, très subjectifs, puisque c'est toujours le sujet qui le fait. Alors, en partie guidé aussi par le psychogénéalogie, c'est en ça qu'on dit qu'il y a aussi une propension à la suggestibilité dans l'élaboration en fait, de cet arbre généalogique amélioré, en fait. Où on viendrait prendre pour base un arbre généalogique classique, avec juste les ancêtres et leur date de mort, leur date de naissance, et on vient y ajouter notre perception, la perception du sujet, sur les liens qu'il peut y avoir justement entre ces personnes-là, des éléments marquants, avec des thèmes qui sont quand même fortement marqués émotionnellement. On est toujours dans les secrets, les choses cachées, les dissimulations, des traumatismes, essentiellement des maladies, les causes de la mort, etc., etc. Donc c'est en ça que le génosociogramme vient compléter une sorte d'arbre généalogique plus classique.
Et le thérapeute lui-même va aller interroger, c'est là qu'on a l'aspect psycho, c'est-à-dire aller vraiment interroger les failles, les choses qui paraissent un peu étranges dans cet arbre généalogique.
Oui, le thérapeute, il va venir pointer en fait des choses qui paraissent ce qu'on appellerait des occurrences, c'est-à-dire qu'une personne qui souffrait, comme vous le présentiez tout à l'heure, de problèmes pulmonaires, le thérapeute va orienter aussi le sujet sur justement la cause de la mort de son grand-père dans des camps de concentration, par exemple, et va guider un peu le lien qu'il pourrait y avoir. On n'est pas sur de l'association libre, on n'est pas sur de l'association libre, en fait, du sujet par rapport à son vécu et à ses ancêtres, mais on est sur une guidance sur justement ces occurrences, ces choses qui reviennent et qui paraissent être liées, en fait, parce que sur le même thème et parce que proposant peut-être un début d'explication de lien justement entre une maladie, la mort d'un ancêtre, la façon dont meurt un ancêtre ou le fait d'avoir été abandonné ou d'être parti en voyage, etc. etc. quoi.
Est-ce que cette démarche du thérapeute en psychogénéalogie entraîne des grandes lois, on va dire, qui seraient scientifiques, par exemple? Toutes les personnes qui ont un grand-père qui a eu tel type de maladie peuvent avoir tel type de problème ensuite. Enfin voilà, est-ce qu'on peut dégager des grandes lois comme ça lorsqu'il y a un secret sur la conception d'un enfant? Alors, à la troisième génération, ces enfants vont souffrir de tel et tel problème. Est-ce qu'on peut avoir comme ça des grandes lois qui se dégagent?
Alors, sur des grandes lois, non, puisque si on décortique un petit peu justement la démarche scientifique, pour pouvoir établir une loi, il faudrait pouvoir observer un phénomène au départ. Ce qu'on essaie de mettre en lumière, c'est les manques qui existent dans la psychogénéalogie, de rendre compte des phénomènes. C'est-à-dire qu'on est sur du scénario, on a l'impression, on pointe quelque chose qui paraît incroyable, qui paraît ne faisant pas partie du hasard, et on essaierait après d'en tirer une explication. Or, la psychogénéalogie ne le fait pas avant. C'est-à-dire, avant de partir sur des grandes lois, il faudrait avoir une démarche réellement rigoureuse sur l'apparition du phénomène. C'est-à-dire, quelles preuves on pourrait amener qui seraient réfutables, qu'il y a effectivement un lien entre ce grand-père mort en camp de concentration et les problèmes de pulmonaires du sujet dont on parle. Or ça, c'est un des grands travers de la psychogénéalogie, c'est de partir sur des interprétations et d'en faire force de preuve, en fait. Donc il n'y a pas de loi. Après, il y a des thèmes qui reviennent souvent. Le fait que, sur tous ces aspects qui sont émotionnellement très chargés, justement, parce que les personnes viennent consulter parce qu'elles ont un problème. Du coup, on va rechercher forcément un problème dans l'arbre généalogique. On va pas rechercher des choses qui vont bien. C'est en ça que c'est très orienté. Du coup, il y a des choses qui reviennent tout le temps. Les maladies, les causes de mort, les problèmes d'enfantement, justement, d'enfants cachés, de séparation, de grands traumatismes, de morts violentes, etc., etc., quoi. Et là où on va faire une interprétation, c'est qu'on va dire s'il y a un lien, ça ne peut pas être dû au hasard, les correspondances ne peuvent pas être dues au hasard. Et le gros souci, nous, ce qu'on essaie de mettre en lumière, c'est notre mauvaise perception des statistiques en général. On a l'impression que deux événements qui seraient corrélés comme ça sont incroyables, et en réalité, notre mauvaise perception des statistiques fait qu'en fait on se trompe, et que statistiquement tout est très probable, en fait.
Alors, dernière question dans cette partie, est-ce que cette psychogénéalogie normalement peut s'adapter à tout type de problème et se veut une réponse à tout type de traumatisme, de maladie, parce que on voit bien dans les problèmes psychologiques notamment, certaines thérapies sont plus conseillées selon le type de traumatisme ou de problème, c'est-à-dire que parfois on va avoir plutôt une analyse, parfois une approche plutôt comportementale. Est-ce que là on se dit, avec cette recherche de la cause, de l'origine de mon problème dans les générations précédentes, je peux tout résoudre?
Et ben moi, je dirais que là, c'est justement là où il faut faire attention, parce que le souci avec ce genre de thérapie, c'est qu'elle apporte finalement des explications qui paraissent simples, qui paraissent même logiques. On voit très clairement dans l'arbre généalogique, avec une correspondance de date, on devine ou on interprète un lien entre deux événements, un lien qui est irréfutable. Et puis surtout, les réponses qui sont apportées, elles sont déculpabilisantes pour le patient, parce qu'elles rejettent la faute sur un autre membre de sa famille. Donc, en théorie, oui, la psychogénéalogie, elle se veut une solution à beaucoup de troubles psychologiques, mais... Enfin, quelle est la valeur de cette solution? Enfin, là, on arrive tout de même dans d'éventuelles dérives et même éventuels dangers, comme des conflits en famille, des problèmes de refus de soins, etc., quoi.
Finalement, l'objectif, c'est quand même d'atteindre une autonomie, de devenir soi-même, de casser cette répétition pour ne pas la transmettre à ses enfants. Et vous avez parlé de déculpabiliser, mais peut-être que les gens cherchent justement cela, se déculpabiliser, c'est résoudre dans un sens ces problèmes.
Oui, mais quand on rejette la faute sur quelqu'un d'autre, c'est un peu problématique, surtout si véritablement il y a une faute. Un des exemples qui est donné, par exemple, dans le livre d'Anne Ancelin. Donc, elle parle d'un de ses patients, Charles, qui a 39 ans, qui souffre d'un cancer des testicules et qui a accepté une première opération et qui, en fait, refuse maintenant la chimiothérapie. Donc, elle fait avec lui son génosociogramme, elle remonte dans son arbre généalogique et elle découvre que son grand-père paternel a reçu un coup de pied de chameau dans les testicules et est mort de ça. Alors, ça peut paraître caricatural comme ça, mais c'est un exemple qui est donné dans le livre d'Anne Ancelin. Et donc, elle fait le lien entre le coup de pied reçu par le grand-père et le cancer.
Okay.
Ouais. le cancer que Charles développe. Voilà. Donc la faute, elle est rejetée sur le pauvre grand-père. Charles, du coup, a une explication à son cancer. Voilà, s'il développe un cancer à cet âge-là, c'est par loyauté envers son grand-père, qui est mort d'ailleurs au même âge, à 39 ans, des suites de ce coup de pied de chameau. Donc je ne sais pas quel... ce qu'on peut véritablement tirer de cette interprétation qui finalement est irréfutable. Je ne sais pas ce que Charles a fait finalement, s'il a accepté la chimiothérapie ou pas. Je ne sais pas s'il est guéri de son cancer, mais vous voyez un petit peu le genre d'utilisation et d'interprétation que peut donner la psychogénéalogie dans ce genre de cas.
Après, il faut voir aussi on peut essayer de mesurer aussi le ratio qu'il y a entre l'intérêt justement de pouvoir dépasser une difficulté avec une réponse assez simple, parce que la grille de lecture est séduisante, elle fait appel à des concepts qu'on a l'impression de maîtriser et qu'il y a une réponse un peu concrète. C'est-à-dire, voilà, si je suis malade, c'est de la faute de, ou c'est parce que mon ancêtre a vécu la même chose ou est parti, etc. etc. Ça, c'est un bénéfice qui peut être intéressant à un moment donné, c'est-à-dire dépasser une difficulté. Après, le ratio est sûrement déséquilibré dans tous les risques que ça peut prendre, par contre, d'avoir à faire ces liens-là et de faire ces liens-là et de les créditer, en fait, qui serait de l'ordre, alors effectivement, comme Géraldine l'a dit, de la maladie, des traitements, de l'arrêt de traitement, de prise de substitution, enfin de traitement de substitution qui serait pas efficace, par exemple, et qui serait mortifère, mais aussi de passer sous silence réellement le dépassement d'une difficulté, c'est-à-dire d'avoir une réponse à un moment donné, mais de pas faire disparaître finalement les symptômes et de rester dans une spirale un peu de difficulté. C'est pas parce qu'on a accès aux causes d'une difficulté qu'on résout cette difficulté là quoi. Il faut avoir aussi après une démarche de soins beaucoup plus dans une psychologie un peu plus pertinente pour dépasser ces difficultés là et puis après on est sur tout ce qui est de la perception en fait qu'on a de notre place en fait dans notre groupe social et des risques qu'il peut y avoir après d'être un peu éloigné de ce groupe social là quand on vient dire que c'est de la faute de la famille ou que la famille n'a rien fait ou qu'on est dans la répétition, ça veut dire qu'on vient marquer la famille dans ces difficultés là et on peut partir sur des dérives sectaires après graves sur ce genre de choses.
Sur RCF Isère, je retrouve mes invités Géraldine Fabre et Nicolas Gaillard pour la dernière partie de Remue Méninges, une émission qui est consacrée aujourd'hui à la psychogénéalogie et à sa remise en cause. Nous avons pu définir ensemble les fondements de cette thérapie, ses origines, ses objectifs, les outils utilisés par les thérapeutes. Et on a déjà commencé à voir quelles pouvaient être les limites de cette psychogénéalogie qui peut être pointée comme le remède à tous nos traumatismes, à toutes nos difficultés relationnelles et qui finalement peut être aussi remise en cause dans une certaine mesure. Nicolas Gaillard, Géraldine Fabre, allez jouer les détectives de l'histoire familiale, repérer les traumatismes, les secrets et finalement nous délivrer du poids du passé. Ça semble un peu magique.
Oui, ça l'est un petit peu, en effet. Quand un psychogénéalogiste repère une coïncidence de date, par exemple, dans un arbre généalogique, ce qu'il fait en général, c'est calculer la probabilité qu'il avait de voir apparaître cette répétition. Et alors, il fait un petit calcul très simple. Il y avait une chance sur 365, donc une probabilité de 0,2%, et donc très faible. Donc forcément, c'était pas du hasard. Donc forcément, ça a un sens. Donc forcément, il y a une interprétation, etc. En fait, si vous faites votre arbre généalogique, donc il y a des petits calculs de probabilité à faire qui sont très simples. Simplement, avec 10 ancêtres. Donc 10 ancêtres, c'est... parents, grands-parents, en gros. Si vous prenez 3 dates pour définir chacun des parents, vous allez avoir 97% de chance de déjà trouver une répétition de date. Donc en fait, des répétitions dans un arbre généalogique, c'est normal. Elles sont très probables. Elles nous semblent très improbables, quand on les calcule d'ailleurs a posteriori, mais en fait, elles sont très très probables. Donc du coup, si elles sont aussi probables, pourquoi leur donner un sens ? Si elles sont pas le fait du... Enfin, si elles sont simplement le fait du hasard, pourquoi aurait-elle un sens ? Voilà.
Pour prendre un peu une image un peu triviale, on pourrait prendre un schtroumpf. Vous avez peut-être déjà vu cette BD, un schtroumpf qui se bande les yeux, qui tire une flèche à l'arc, qui va à un endroit aléatoire, et qui après va dessiner la cible à l'endroit de la flèche. C'est un peu cette démarche-là, c'est-à-dire qu'on part tous azimuts à essayer de trouver des liens, et forcément on en trouve. Et après, c'est l'interprétation c'est la phase d'interprétation qui pose problème, en fait.
Moi, ce qui me pose question aussi, c'est cet aspect de libre arbitre. C'est-à-dire que j'ai l'impression que si on est vraiment dans cette démarche de psychogénéalogie, alors on est déterminé par ce qui nous précède, et peut-être uniquement par ce qui nous précède. Et dans ce cas-là, où est notre libre arbitre ? Où est notre responsabilité ? Et aussi, quid de ce qui nous forge, c'est-à-dire la société dans laquelle on vit, le temps dans lequel on vit, les amis, l'école, etc., toute notre éducation, tout ce qui fait qu'on est des êtres individuels et qui peuvent avoir une histoire particulière. Voilà. Est-ce qu'on n'est pas complètement, dans ce cas-là, déterminé par le passé ? Et est-ce qu'on n'a pas un risque de perdre son libre arbitre ? Nicolas Gaillard.
Tout à fait. Ce qui pose question, c'est effectivement cette idée de déterminisme, c'est-à-dire que finalement je ne suis pas maître de mon environnement, mais c'est déterminé par mes ancêtres et le vécu de mes ancêtres. Alors, la psychogénéalogie s'en sort aussi en disant que justement, de pouvoir pointer ce déterminisme, c'est mieux s'en échapper. Donc c'est de dire justement j'arrive à acquérir une certaine liberté parce que j'arrive à voir les liens qu'il y avait avec les liens transgénérationnels et du coup j'arrive à m'en libérer. Ce qui à mon avis n'est pas très juste puisque justement on vient créer au travers d'interprétations un peu fallacieuses de dates et de liens, de maladies, etc. En fait on vient créer ce déterminisme-là et en fait on inscrit les gens dans ce déterminisme plutôt que les en libérer. Et ça va à contrario justement des traitements psychothérapeutiques qui sont eux par contre un peu basés sur une démarche scientifique et sur une démarche réellement pertinente où on essaye de conduire les patients à pouvoir agir sur l'environnement, c'est-à-dire avoir vraiment la possibilité de conduire leur vie de façon un peu plus pertinente.
Alors, autre question, la psychogénéalogie a essaimé de nouvelles pratiques qui ont fleuri. Notamment, on parle des constellations familiales, vous allez peut-être pouvoir nous expliquer ce que c'est. Aussi, la psychophanie, qui serait une manière de communiquer avec les ancêtres via des ordinateurs. Est-ce que ces constellations familiales, donc se mettre au centre d'un groupe et chaque personne va prendre le rôle d'une personne de sa famille, enfin, est-ce qu'on est là dans des choses qui sont également, qui peuvent être intéressantes pour le développement de l'individu ? Ou est-ce qu'il faut vraiment se méfier de ce type d'approche qui, a priori, fleurissent un peu partout et n'ont pas l'air si délétères que ça ?
Alors, ce qui est compliqué, c'est que c'est pas forcément issu de la psychogénéalogie, mais ça s'en nourrit aussi sur la constellation familiale ou alors sur la psychophanie ou la communication facilitée. C'est des techniques qui sont un peu issues en fait du même terreau, c'est-à-dire de cette histoire d'un inconscient en fait collectif et d'une possibilité de communication d'inconscient à inconscient. La communication facilitée, par exemple, c'est l'idée que j'aide une personne, alors en fait ça se passe comme ça. On prend la main de quelqu'un, il y a une personne qui est un facilitant qui va prendre la main de quelqu'un. En général, c'est des personnes qui n'ont pas accès à la communication, soit des personnes handicapées, autistes, soit des gens dans le coma. Et sur un écran d'ordinateur, un clavier d'ordinateur, en fait, on va les aider, faciliter, guider le fait d'appuyer sur des touches et de créer des textes, en fait. Et après, on va interpréter ces textes-là. Alors, c'est toujours la même chose. Ça part d'une intention qui est assez louable, en général. C'est d'essayer de dépasser les difficultés de communication, de souffrance, etc. En proposant une méthode en fait, qui paraît intéressante. Le problème, c'est que toutes ces méthodes-là reposent sur pas grand-chose, en fait, d'éprouver. C'est-à-dire que c'est performatif, en fait. J'annonce que ça se passe comme ça, donc ça se passe comme ça. C'est un biais de raisonnement qui est important. Et au vu de la gravité et des prétentions qui sont de pouvoir communiquer quelqu'un qui ne peut pas communiquer, on est en droit de réclamer d'avoir un faisceau de preuves un peu plus important qu'une idée ou un scénario, en fait, de comment ça pourrait se passer.
Est-ce que votre argument va vraiment à l'encontre du fait d'être quand même déterminé par notre passé, notre histoire ? Est-ce que, selon vous, on est uniquement le fruit de ce qu'on est aujourd'hui, de notre histoire personnelle, ou est-ce qu'il peut quand même y avoir des héritages qui viennent de la famille, qui viennent de l'histoire, même au sens plus large ?
Oui, des héritages, il y en a. Enfin, moi, j'étais très proche de ma grand-mère. Enfin, l'histoire de ma famille, je la connais racontée à travers mes parents. Donc, des héritages, il y en a. Après, savoir si ils sont transmis par cet inconscient, si les traumatismes sont transmis tels que la psychogénéalogie le prétend, ça, c'est une autre chose. Et les preuves aujourd'hui qui sont avancées pour étayer cette théorie de la psychogénéalogie, elles nous semblent en tout cas pas suffisamment solides. Après, on ne veut pas dire qu'il faut tout rejeter non plus. Simplement que les preuves avancées aujourd'hui ne sont pas suffisantes pour étayer cette théorie.
C'est ce qui fait aussi la forte adhésion à ce genre de concept, c'est parce que ça nous parle, parce que ça évoque chez nous un peu ce qu'on partage de notre fonctionnement psychologique et ce qu'on entend plus ou moins correctement vulgarisé de la psychologie, par exemple. Après, je redis que la psychogénéalogie s'arrête souvent sur des thèmes qui sont émotionnellement forts et plutôt négatifs. C'est-à-dire, on est vraiment sur le traumatisme, la maladie, la culpabilité, la mort, etc. etc. On n'est pas sur quelque chose d'autre. Et je pense que la psychologie sociale apporte des lumières sur le fonctionnement d'un individu dans un groupe social beaucoup plus importante et beaucoup plus étayée que ce genre de scénario, par exemple. On sait aujourd'hui qu'un individu, il est fortement influencé par son groupe social, beaucoup plus que par ses ancêtres à la troisième génération, par exemple.
Très bien, alors on va terminer avec peut-être une explication du cortex, puisque vous êtes membre de ce collectif de recherche, et j'aimerais en savoir un petit peu plus sur cette volonté d'aller un peu titiller la pensée commune, le bien-penser.
Alors le cortex, c'est un collectif qui se propose à Grenoble, Marseille et Montpellier de rassembler, de mettre en réseau tous les gens qui travaillent, alors que ce soit des enseignants, des étudiants, des formateurs, de près ou de loin, sur la transmission de la pensée critique, en fait. C'est-à-dire tout l'outillage qu'on peut mettre en place au travers de la démarche scientifique pour pouvoir se faire une idée un peu plus vraie que fausse sur la réalité de notre environnement. Donc ça part des intrusions spirituelles en science, aux critiques des médias, à la façon dont on perçoit des choses dans les médias, sur les aspects aussi justement de psychothérapie ou de grands concepts justement de psychologie qui sont basés sur des faits qui restent à démontrer. Et pour ça, donc, on essaye de développer les interventions et les formations en esprit critique. Alors, il y a un cours, en fait, à l'UJF à Grenoble d'esprit critique. Et on appelle ça, nous aussi, l'autodéfense intellectuelle. C'est-à-dire quels outils on utilise pour éviter de se faire refiler des trucs qui ne sont pas terribles, en fait. Voilà. Donc, un peu sous un peu la guidance de ce que pouvait dire Noam Chomsky sur... ou Norma Baillargeon, par exemple, sur le développement justement de cette pensée critique, cette possibilité de faire front face à l'information qui nous est dévolue tous les jours de façon très importante.
Merci à vous Géraldine Fabre et Nicolas Gaillard pour cet exposé détaillé et pour votre démarche scientifique un rien poil à gratter qui nous empêche de penser en rond. Vous l'aurez compris, cette émission touche à sa fin, merci de l'avoir suivie. Vous donnerez une conférence Géraldine Fabre et Nicolas Gaillard le 8 décembre prochain à 16h à la bibliothèque Kateb Yassine de Grand Place. Une conférence dans le cadre du cycle « Une heure de psy par mois » et une conférence gratuite et ouverte à tous. Rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro de Remue Méninges, bien sûr sur RCF Isère.